Bienvenue dans le podcast Féminisme Initial. Ce podcast est présenté en partenariat avec le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous sommes quatre étudiantes de Sciences Po Paris, Carla, Camille, Colline et Aurore. Nous sommes passionnées par les questions féministes et nous collaborons ce semestre avec le HCE pour la conception de ce podcast. Ce podcast a été enregistré au studio La Poudre, à la Cité Audacieuse. Merci à celui important de la lutte féministe associative de nous accueillir. Féminisme Initial a pour objectif de démocratiser des termes et concepts féministes pour tous les publics de 7 à 107 ans. Pendant une quinzaine de minutes, nous vous présenterons des mots-clés du vocabulaire de l'égalité et des droits des femmes et nous questionnerons le fond de ces notions avec des invités d'une grande diversité, qu'elles et ils soient élus, chercheuses et chercheurs, institutionnels, militantes ou militants, qui viendront nous apporter leur regard aiguisé sur ces questions. Aujourd'hui, on va vous parler de la notion d'égaconditionnalité. L'égaconditionnalité est un concept qui a été inventé et promu par le HCE, notamment dans son rapport relatif à la lutte contre les stéréotypes de sexe, publié en octobre 2014. C'est l'idée que les fonds publics devraient être alloués à des projets, des entités, des structures qui respectent l'égalité femmes-hommes. L'argent public devrait non seulement ne pas conforter les stéréotypes de sexe, mais, au contraire, constituer un levier pour agir contre ces derniers. La commande publique, en France en 2020, se chiffre à 71 milliards d'euros et peut donc constituer un levier d'action important. Or, pour une collectivité comme pour l'État, intégrer des objectifs d'égalité femmes-hommes, c'est être en cohérence avec sa politique d'égalité et avec les valeurs de la République. C'est aussi être exemplaire et diffuser cette exigence vers d'autres organisations. Le fonctionnement de l'égaconditionnalité repose sur plusieurs critères, tels que l'organisation et le fonctionnement de la structure demandeuse de financement, sur le respect d'obligations légales, soit en matière d'égalité professionnelle, soit en matière de parité. Le principe d'égaconditionnalité peut s'appliquer au marché public, au contrat d'objectifs des opérateurs entre l'État et différents types de structures, à l'ensemble des subventions publiques aux associations, mais aussi aux garanties et aux financements octroyés par les banques. La loi du 4 août 2014 sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes crée trois interdictions d'accès aux contrats de commande publique pour des entreprises qui ne respecteraient pas certaines dispositions. Par exemple, pour celles qui seraient déjà condamnées pour discrimination sur le sexe, pour méconnaissance de l'égalité entre les femmes et les hommes, ou pour violation de l'obligation de négociation en matière d'égalité professionnelle. En 2014, une directive européenne renforce les possibilités offertes pour conditionner les achats publics au respect de dispositions relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes. En France, plusieurs organisations, institutions et collectivités ont décidé de mettre en pratique le concept d'égaconditionnalité. En 2018, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, annonce l'application du principe d'égaconditionnalité au domaine du cinéma. Cela se traduit par la mise en place de bonus en termes de financement public selon la place des femmes dans les projets financés par le CNC, ainsi que par la création de statistiques sexuées pour les dossiers d'agrément du CNC et d'une charte de bonne pratique. D'ailleurs, depuis le 1er janvier 2021, les aides du CNC sont conditionnées au respect par les entreprises qui les demandent, d'obligations précises en matière de prévention et de détection du harcèlement sexuel. Les villes de Paris, Lyon et Nantes se sont aussi engagées, à travers différents projets, à proscrire les discriminations et à promouvoir l'égalité femmes-hommes dans le règlement des consultations de leur marché public. À l'étranger, le principe d'égaconditionnalité trouve aussi des ramifications. En application de la loi fédérale autrichienne de 2006 sur les marchés publics, la ville de Vienne a choisi d'intégrer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au cœur de sa politique d'achat, à travers des conditions d'exécution et des critères d'attribution.
Et qui de mieux pour nous parler d'égaconditionnalité que Sylvie-Pierre Brossolette ? Sylvie-Pierre Brossolette, vous êtes journaliste et êtes passée par l'Express, le Figaro ou encore la rédaction du Point, jusqu'à rejoindre le Conseil supérieur de l'audiovisuel en 2013. Vous êtes également membre de la Fondation des femmes et avez cofondé la Cité Audacieuse où nous sommes aujourd'hui. Il y a 2 mois, vous avez été nommée présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Toutefois, ce n'est pas une institution qui vous est totalement inconnue, puisque vous avez été à la tête de la commission lutte contre les stéréotypes et rôles sociaux de cette instance consultative indépendante, au sein de laquelle vous avez pu développer un panel de propositions visant à lutter contre les stéréotypes, parmi lesquelles on retrouve l'égaconditionnalité dont il est aujourd'hui question. Il existe déjà de nombreuses lois sur la parité pour garantir une meilleure représentativité des femmes au sein des entreprises ou des institutions. Pensez-vous qu'utiliser l'égaconditionnalité n'illustre-t-il pas les limites de ces lois ?
Il n'y a pas tant que ça de loi, comme vous dites, pour garantir la parité. Il y a eu des expériences en politique qui ont été plutôt positive, mais ça n'a pas touché encore tous les organismes politiques. Il n'y a pas de loi, par exemple, pour garantir la parité dans un gouvernement, ni dans les cabinets ministériels. On en voit quelques effets. Et puis, dans les entreprises, il y a un tout petit début avec la loi Rixin. On en verra les effets, mais on trouve que pas assez d'entreprises sont concernées et que les délais pour se mettre en conformité avec le taux de 40% sont trop longs. Donc, en réalité, il y a peu de lois. Il y a la loi sur l'égalité salariale, mais enfin, ça ne garantit pas du tout la parité, et même pas d'ailleurs l'égalité salariale. Vous avez raison de dire que là, la loi reste en partie impuissante. Donc, effectivement, l'idée était de trouver peut-être d'autres leviers. On aurait pu trouver, on peut toujours faire une autre loi disant que tout argent public doit avoir une contrepartie en termes d'égalité femmes-hommes. On ne l'a pas fait pour l'instant. Alors on propose que ça soit via les budgets, l'argent ou les autorisations administratives, que soient contraintes les entreprises qui demandent de l'aide ou demandent des autorisations d'appliquer un certain nombre de principes d'égalité entre les femmes et les hommes. Alors c'est plus souple parce que ça peut concerner toute une palette de mesures. On peut exiger en contrepartie de subventions publiques ou de marchés publics ou d'autorisations publiques des éléments de parité, des éléments justement d'égalité salariale ou des garanties de promotion ou des dispositifs contre les violences et les harcèlements à l'intérieur d'une entreprise ou d'une administration. Donc c'est une méthode très commode quand on sait qu'en France, il y a énormément d'argent public qui est distribué chaque année. Et il y a eu notamment l'occasion du plan de relance de 460 milliards. Vraiment, à cette occasion, on s'était dit que l'État aurait pu demander aux entreprises qui allaient en bénéficier d'avoir des contreparties en termes d'égalité entre les femmes et les hommes. Ça n'a pas été le cas. Des contreparties ont été demandées en termes d'écologie, ce qui est très bien. Mais ça a été vraiment l'occasion de mettre les femmes dans le coup. Et ça n'a pas été fait. Et d'une manière générale, les premiers pas de l'éco-conditionnalité concernent très peu de choses. Ça a été fait à la culture, ce qui est très bien. Il y a un pas dans la porte qui a été mis, notamment au CNC, où d'ailleurs, ce n'est pas des punitions qui sont promises si on ne respecte pas les principes d'égalité, mais des bonus qui sont donnés aux équipes de tournage quand il y a un certain taux de femmes dans la composition. C'est un début. On peut aller plus loin. J'espère qu'il y aura un malus un jour quand il n'y aura pas assez de femmes. Ensuite, il y a un vrai dispositif punitif, si je puis dire, pour également le CNC et le CNM, le Centre National de la Musique, pour les dispositifs anti-harcèlement et anti-violence faites aux femmes. Là, l'argent public, les subventions ne sont pas versées s'il n'y a pas les dispositifs anti-violence et anti-harcèlement mis en place. Donc le ministère de la Culture fait preuve de bonne volonté. Ce dispositif a été étendu, la ministre Madame Bachelot vient de l'annoncer, à tous les autres secteurs de son ministère. C'est très bien, mais enfin ce n'est que le ministère de la Culture qui, comme vous savez, n'a pas le plus gros budget de l'État. Donc, on pourrait imaginer d'appliquer ce principe d'égale conditionnalité, une fois de plus, que ce soit pour les finances ou pour des autorisations. Par exemple, il y a des entreprises ou des institutions qui doivent passer par des autorisations de l'État, mais même le secteur bancaire, qui a bénéficié de la garantie de l'État, dès que l'État donne quelque chose, il pourrait exiger une contrepartie de l'autre côté. Voilà.
Et vous venez de le mentionner, du coup, mais pourquoi ne pas punir directement, donc en utilisant par exemple des malus pour essayer de forcer davantage ces institutions à respecter la représentativité des femmes?
Oh, parce que c'est déjà une révolution d'obtenir qu'il y ait un bonus. Vous savez, tout est très très lent. En France, on est un vieux pays patriarcal et le concept d'égaconditionnalité est très récent. Il a été promu par le HCE à partir de 2013 à l'occasion de la discussion de la loi de Najat Vallaud-Belkacem, la grande loi sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Et il a pénétré peu à peu les esprits. Ça, d'abord les esprits, ça ne coûte rien. Et un petit peu la réalité depuis un an ou deux. C'est très lent, mais on espère bien que ça va se développer parce que c'est effectivement un moyen beaucoup plus efficace que de faire des lois qui sont plus ou moins respectées comme l'égalité salariale. Si on disait à une entreprise S'il reste 5 à 10% de différence entre les salaires, entre les femmes et les hommes chez vous, eh bien vous ne bénéficierez plus de telle aide, telle autorisation ou telle subvention. Je pense que effectivement l'écart se réduira beaucoup plus vite que juste le principe d'une loi générale disant que c'est illégal qu'il y ait l'écart des salaires entre les hommes et les femmes, parce qu'il faut des rapports d'inspection, et donc il faut de plus en plus d'inspecteurs du travail, ce qu'on n'a pas, parce que les entreprises trouvent toujours un moyen de tourner la loi, alors que si on leur dit plus de subventions, ça va plus vite. Je suis d'accord avec vous, il faudrait aller dans ce sens. Simplement, il faut persuader beaucoup de députés hommes, beaucoup d'administrateurs hommes, beaucoup de ministres hommes. Et on est généralement en campagne électorale dans ce pays. Il y a toujours une élection en train et on se dit « Oh là là, il ne faut pas bousculer les habitudes, il ne faut pas se mettre mal avec le patronat, avec tel élu, avec telle entreprise. » Bon. Donc c'est lent, mais peu à peu, ça fait son chemin et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui d'ailleurs.
Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu le contexte dans lequel l'égal conditionnalité est apparue ? Est-ce qu'il y a eu un événement politique ou majeur qui est arrivé à ce moment-là qui a fait que ce concept vous est apparu ?
Oui, l'occasion, ça a été la loi que préparait Najat Vallaud-Belkacem sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et où elle a introduit l'idée de conditionner les marchés publics au respect d'un certain nombre de règles d'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc à partir de là, le HCE a étendu le concept en disant pas simplement marché public, mais autorisation administrative, subvention, aide de toute nature, tout ce qui vient de l'État, d'ailleurs de nos impôts, et des élus que nous élisons, eh bien il y a une contrepartie qui doit être donnée pour faire progresser la société et respecter les droits des femmes. C'est un peu le seul moyen, sinon on va encore prendre 200 ans pour avancer un petit peu. Et effectivement, dès qu'on touche au portefeuille, malheureusement, il faut bien le reconnaître, c'est plus efficace que n'importe quoi.
Au sein des médias audiovisuels, on a le CSA, que vous connaissez bien parce que vous y avez travaillé, qui vise notamment donc à améliorer la place des femmes dans les médias. Quid de la presse écrite ? En quoi l'égal conditionnalité pourrait un jour être un levier pertinent à la fois pour les médias audiovisuels comme ça peut l'être aujourd'hui et pour la presse écrite à l'avenir ?
Alors d'abord le CSA n'applique pas tout à fait l'égal conditionnalité. Hein. Il régule le secteur et fait appliquer la loi d'ailleurs dont nous avons parlé de Najat Vallaud-Belkacem, qui a donné le pouvoir au CSA de veiller à l'image des femmes, mais en concertation avec les chaînes de radio-télévision. Je le sais bien parce que je l'ai fait appliquer cette loi, j'ai dû faire passer, voter une délibération au CSA, mais en concertation avec les chaînes, ça a pris 18 réunions pour se mettre d'accord, et elles étaient très très réticentes au départ. Il s'agissait pour elles de chaque année nous remettre un rapport qui comptait le nombre de femmes qu'il y avait comme chroniqueuses, animatrices, expertes, etc. Et on ne pouvait pas les punir. Il n'y avait pas d'égal conditionnalité, il n'y avait pas « vous n'aurez pas d'autorisation, vous n'aurez pas d'argent si vous avez des mauvais chiffres ». Mais ça, c'était plutôt « name and shame ». C'est-à-dire que, comme les rapports étaient publics avec notre commentaire, ceux qui étaient trop à la traîne étaient mal vus. Et c'est vrai que dans l'air du temps, c'est une tare, mais on arrive à un certain plafond et je me demande si maintenant on ne devrait pas faire jouer l'égal conditionnalité, c'est-à-dire que dans ce secteur audiovisuel, on demande souvent des aides à l'État, des autorisations, des quotas de production, toutes sortes de choses que doivent décider le gouvernement. Et on pourrait décider qu'il n'y aurait pas une amélioration des quotas de production, c'est-à-dire à la baisse pour eux, s'il n'y a pas à la hausse les droits des femmes. Mmh. Mais ce n'est pas encore entré dans les mœurs, mais au moins au CSA, il y a une sanction si il y a un dérapage sexiste à l'antenne, que ce soit à la radio ou à la télévision. Et j'ai réussi, pendant que j'y étais, effectivement, à faire condamner des chaînes de radio et de télévision pour dérapage sexiste et le faire confirmer par le Conseil d'État. Donc ça fait jurisprudence et ça, c'est une de mes plus grosses fiertés. Et alors, pour la presse écrite, elle, c'est un autre problème, parce que on pourrait faire jouer l'égal conditionnalité, étant donné que l'État donne énormément d'argent. Contrairement à l'audiovisuel, il donne des autorisations. Et puis, il y a l'argent du secteur public, bien sûr. Mais d'ailleurs, ça a été utilisé pour le secteur public de radio et télévision. Il y a maintenant, dans leur contrat d'objectifs et de moyens, un objectif chiffré d'égalité femmes-hommes. mais les sanctions, on les connaît pas. Hein. Il y a un objectif. Pour la presse, il y a beaucoup d'argent. C'est les fameuses aides à la presse qui sont historiques parce que la presse est un secteur économiquement tendu. Et l'idée était de dire, puisque vous recevez des aides de l'État, vous pourriez au moins respecter un certain nombre de principes d'égalité entre les femmes et les hommes, que ce soit au sein de vos organisations ou dans vos contenus. Et évidemment, c'est très très mal vu parce que les intéressés s'écrient qu'on porte atteinte à la liberté de la presse, à la liberté de penser, à la liberté de s'exprimer, à la liberté d'écrire. Bon, je ne pense pas que d'exiger une certaine parité à l'intérieur des journaux soit une atteinte à la liberté de penser, de même que d'obliger la presse à se compter en termes de stéréotypes ou de signatures féminines ou de citations d'expertes soit une atteinte à la liberté de penser ou de s'exprimer. Donc je pense que peut-être qu'on y arrivera. Ce sont quelques propositions qu'on a faites dans le dernier rapport dans l'état du sexisme en France au HCE. Il y a des conventions qui sont passées entre l'État et les journaux, et les grandes entreprises de presse. Donc dans ces conventions, il est écrit que ces entreprises peuvent prendre des engagements concernant l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous demandons à ce qu'on n'écrive pas « peuvent » mais « doivent ». Et alors dans ce « doivent », il peut se mettre beaucoup de choses. C'est pas forcément la parité tout de suite ou 50% de femmes expertes dans chaque journal, dans chaque parution. Mais il peut y avoir des objectifs de fixer. Il peut surtout y avoir une obligation de se compter. Et déjà ça, et que ce décompte puisse être rendu éventuellement public. Parce que là aussi, le name and shame pourrait être très utile. Bon, enfin, on n'en est pas là, mais on espère y arriver. On sème des petits cailloux, et puis on espère qu'ils vont faire des petits. À chaque nouveau gouvernement, on revient à la charge, et puis ça progresse quand même.
Garde espoir, en tout cas. Pour conclure cet épisode, est-ce que vous pourriez nous donner votre propre définition en quelques mots de l'égal conditionnalité et si possible un exemple très concret pour qu'on puisse garder une image en tête de ce que ce concept recouvre ?
Eh bien, pas un sou de l'État, donc de nos impôts, à qui que ce soit sans contrepartie en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Par exemple, pas une aide à une entreprise en difficulté à cause des dernières crises économiques et sanitaires, sans que ces entreprises s'engagent sur quelque chose qui est en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Merci beaucoup pour votre intervention, c'était super intéressant.
Merci à vous et bravo pour ce podcast.
Merci à notre invitée Sylvie-Pierre Brossolette d'avoir accepté d'intervenir dans ce premier épisode du podcast Féminisme Initial. Pour en apprendre davantage sur le concept d'égal conditionnalité, vous pouvez consulter le rapport « Activer l'égal conditionnalité ou le conditionnement des financements publics à l'égalité femmes-hommes » disponible sur le site internet du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans le prochain épisode de Féminisme Initial, nous parlerons du sujet des règles en compagnie de nos deux invités Catherine Vidal et Justine Okolodkov. Merci de nous avoir écoutés sur Féminisme Initial.